Allez, salut, vous êtes bien sûr Achaïra et c'est la deuxième partie de la 222e édition. Cette partie sera composée d'un hommage rendu à Maurice Rachfuser, décédé récemment.
Vous écoutez Achaïra sur la clé des ondes 90.1.
Voilà, c'est le débat d'actu et donc Thierry va nous brosser un portrait de Maurice Rachfuser, une petite biographie.
Eh bien, oui, il va nous faire biographie, quelques souvenirs, peut-être pas tout en bloc. Maurice Rachfuser, alors comme tout le monde le sait ou devrait savoir, né le 9 avril 1928 et mort le 13 juin 2020. Alors, ma science est toute nouvelle. Maurice Rachfuser, ce n'est pas son nom. Son nom, c'est Plocky. Alors Plocky, du nom de son père, ses parents sont venus dans les années 20 de Pologne, dans la banlieue parisienne, à Aubervilliers. Ils ont vécu tant que peu sur les marchés, en vendant, disent les quelques trucs que j'ai lus, des chaussettes. Peut-être qu'ils vendaient aussi autre chose, ça semble un peu bête. Quand ses parents sont arrêtés en 41, il a 14 ans. Et lui et sa sœur, qui était née 2 ans avant, donc, enfin bref. Et ils sont épargnés par il y a des avis contradictoires. Est-ce qu'on pouvait, au-delà de 14 ans, garder les enfants? Enfin bref, ils ont réussi à prendre la tangente et à rester en vie. Et même, il y a des souvenirs où la mère dit à sa fille Jenny, elle lui explique tout, ce qu'il faut faire dans la vie. Brièvement, pas des cours d'éducation sexuelle, mais près, dans les souvenirs de Jenny Plocky, elle raconte tout ça, et elle se dit, maintenant j'en pleure, quand elle vivait encore, c'est parce que ma mère se rendait compte qu'elle ne reviendrait jamais. Donc elle lui disait, voilà ce qu'il faut faire. Et le petit Maurice était dans son coin, lui c'était le petit. Parce qu'une fois, je raconterai après, mais je raconterai après. Bon, alors ça, c'est à la libération, explosion, tous ils sortent dans Paris libérés, on va dire ça comme ça. Les deux, Jenny et Maurice, militent plus ou moins au Parti communiste. J'ai plus de renseignements sur Maurice. Il aurait milité au Jeunesse communiste et, ai-je lu, 3 fois, il se serait fait exclure pour hitléro-trotskisme. Alors, je croyais que c'était une expression et que ça ne s'écrivait pas, mais peut-être que ça s'écrivait. Hitléro-trotskisme, alors après. Alors que sa sœur, Jenny, était déjà trotskiste. Elle était militante pendant quelques temps au PCI de l'époque. C'est les années 50.
Et le boom pendant la guerre d'Espagne était aussi traité d'hitléro-trotskiste.
Et toi et moi? Non, moi, nous c'était autre chose. Oui, c'est vrai. On oublie toujours que c'était ce qu'il fallait dire pour
disqualifier.
Voilà, disqualifier et pour rester poli. Sinon, après, bon. Le petit Maurice, comme il s'appelait, il fréquente pas l'ultra-gauche, si, bien, presque, l'extrême-gauche. Et pendant quelques années, en 50 et quelques, il fréquente les réunions de socialisme ou à Barry avec Lefort et Castoriadis. Alors sinon, après, il y a beaucoup d'autres choses que vous connaissez sûrement. Quelques petits mots pour que j'oublie pas. Quand on demandait à Maurice Rachfuser, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie, qu'est-ce que ça a été votre vie. Il disait, je suis historien de la répression. J'ai même créé mon propre genre. Et c'est vrai que, à travers tous les livres qu'il a écrits, alors entre les exactions policières de toutes sortes, le problème juif, qui ne le quittera jamais, tout le monde, ou presque, connaît en 1980 la parution d'un livre sur l'Union Générale des Israélites de France, qui a eu plusieurs titres. Et ça a été préfacé par Pierre Vidal-Daquet, qui avoue dans sa préface qu'il connaissait pas Auschwitz et que le titre... Sakina, tu connais peut-être le titre ? Il est là, oui. Le titre.
L'an prochain, là.
Alors, parce que, je dis le titre au long, mais il y a... Des juifs dans la collaboration. C'était le second titre, paraît-il, qui avait été choisi par Vidal-Naquet en disant « Tu veux faire du Sprouls ? Excusez-moi. Bah on y va. Allons-y pour ça. » Alors, bien sûr, ça ne lui sera jamais pardonné par ceux que l'on prénomme sionistes, bien sûr. Parce que il y a plusieurs, paraît-il, je ne l'ai pas lu, j'avoue honteusement que je ne l'ai pas lu. J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas lu. Qu'il démontre, avec des documents et tout, que, loin d'être juste une officine pour qu'il y ait des contacts entre Vichy, les Allemands et la communauté juive, alors tout le monde n'est pas d'accord. Il montre, mais j'ai entendu ça tellement souvent, que c'est les juifs séfarades qui ont protégé leur communauté et qui ont livré les Ashkénazes. Alors, les Ashkénazes, pour ceux et celles qui ne savent pas, chers auditeurs, chères auditrices, c'est les juifs qui venaient de l'Europe de l'Est et qui, pas en grande majorité, mais étaient de gauche, ultra-gauche, presque, oui, anarchistes, syndicalistes. Et moi, j'ai entendu, quand je me promenais au Marais, histoire d'eux, une conversation qui tournait au vinaigre. Et il y avait un monsieur qui disait, de toute façon, vous êtes écarté de la voie de Dieu, ce qui vous est arrivé, c'est de votre faute. Alors, au début, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Alors, je n'ai pas été demandé, bien sûr. Bon. Mais après, j'ai demandé à des copains d'origine juive. Ben oui, ben, ils considèrent que les Ashkénazes ont trahi, que donc les camps d'extermination, c'était bien fait par leur gueule. Disons les choses comme ça. Bon, alors, on pourra en discuter là où Maurice a milité de... Outre tous les livres qu'il a fait, les officines d'agitation diverses, que fait la police, le regroupement Ralfron et tout ça. Il y a eu aussi, vers la fin de sa vie, il avait des tonnes d'archives et son fils... que j'ai croisé, Marc. C'est pour ça que, quand on m'a dit « mais c'est le fils de Rachfus », puis après je me dis « Marc, comment ?» Alors, j'avais entendu Ploqui, mais je n'avais pas entendu. J'avais bien pas entendu. Et il paraît que, je vais y revenir, tout ça va être mis au frais, comme ça. Parce que la hantise de Maurice, c'est que tout ça finisse à la benne. Oui, à la benne. Voilà. Et il y a aussi un petit truc qu'il faudrait que je dise avant que j'oublie de le dire. Maurice Rachfus a été a milité avec la gauche, dans le sens noble du terme, pourrais-je dire, l'extrême gauche et le mouvement libertaire. Fabienne et moi, on l'a croisé pendant de 2005 à 2008. À la librairie du Monde Libertaire, où il apportait toutes les semaines son article, taper à la machine. Et on discutait assez souvent sur le Bund, sur des trucs comme ça. Et aussi, à la fin de sa vie, il y a un article que j'ai lu qui disait qu'il avait cheminé avec les camarades des éditions Libertaria, avec lesquels il a été jusqu'au bout. Alors, d'ailleurs, on reviendra sur sur l'Observatoire des libertés publiques, pour garantir l'ordre public, toutes ces choses-là. Sur la Palestine, il a écrit en 90, avec une exergue, Israël, une démocratie sous haute surveillance. C'était en exergue. Et un truc qu'il ne faut pas que j'oublie, il n'avait que le certificat d'études. Et on oublie, on ne sait pas, ou les deux à la fois, qu'en 1992, il a passé un doctorat de sociologie, qu'il a réussi, bien sûr. Alors, quoi dire ? Si, alors, quand nous avons appris sa mort, je n'avais pas Internet. Bon. Alors, le seul journal que j'avais eu, c'est l'ancien journal de la rue de Lorraine.
Ça ne marche que pour les Parisiens. Il veut dire libération. Voilà. Il est un peu snob, n'oubliez pas.
Oh, ça va, ça va. Et c'est le seul article que j'ai lu où il est quand même mentionné. Ah, Maurice Rachfus a consacré la majeure partie de sa vie à l'examen implacable des crimes et délits policiers en France. Figure libertaire, il est mort. Je crois que c'est les seuls. J'ai essayé de voir Le Monde. Je ne crois pas qu'ils l'ont même pas mentionné, tout ça. Donc, je me souviens toujours, c'est moi qui ai accueilli Maurice Rachfus à la librairie des Monts Libertaires. Je vois les copains me disent, tiens, il y a un vieux qui vient là, à ton tour. Je croyais avoir vu sa tête quelque part, tout ça. Alors, je m'appelle Maurice Rachfus. Je dis, ah oui, oui. Et je voudrais écrire pour le Monde Libertaire. Alors, je disais, mais Maurice, je peux t'appeler Maurice? Oui, bien sûr. Mais je croyais que tu étais engagé avec les camarades de Ralph Ron. C'est fini. Alors je lui dis, quoi, c'est fini? Je n'étais pas au courant de toutes les scissions du mouvement trotskiste. Et il s'était fâché avec les camarades de Ralph Ron en général, et ceux de la Ligue communiste en particulier, pas tous peut-être, sur le moment crucial où il fallait choisir, pour ceux et celles qui votent, entre Chirac et Le Pen. Et les camarades de Ralph Ron et d'autres, et balayant devant notre porte, certains libertaires aussi. Enfin bref. Ils avaient dit, il faut voter pour Chirac, il aura un score trop fort, comme ça le ridiculisera. Bon. Et il leur avait claqué la porte au nez, il m'avait expliqué, je vote pas toujours, mais quand même, voter pour Chirac, non. Comme ça, alors, puis il m'avait déjà amené son article que tu dois voir, Philippe, on peut en dire un mot. Le premier article du Monde Libertaire.
Ah, le premier.
Et je me souviens d'avoir lu la première bouture, puis là, il me disait, ah là là, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas te plaire. Alors, c'était la justification, pourquoi pas, du vote. Alors, je lui avais dit, tu sais, Maurice, la plupart des camarades qui disent le Monde Libertaire autour, le vote, ou ils en ont rien à foutre, ou ils disent que c'est bon, enfin donc, tu pourrais arranger ça. Et on a réécrit. Alors, j'ai réécrit avec lui. Ça te plaît, ça? On enlève tout. J'ai dit, non. Il faut quand même que tu laisses ta griffe. Il m'a même dit, non, je suis gentil, je griffe pas, moi. Oh, je crois pas que c'est pas l'expression qui faut, Maurice. Tu griffes pas, mais tu mords alors. Oui. Enfin voilà.
C'est juin 2005, c'est ça, sur le vote de la Constitution. Enfin le référendum, non?
Non, je crois que le premier article s'appelait
On
commémore et puis on oublie. Oui.
Voilà.
Et je crois que c'était le numéro, le ML 1385 de février 2005. Et je crois que c'est celui-là que tu as retrouvé. Parce que moi j'avais trouvé la trace, mais pas l'article.
J'ai retrouvé les autres aussi, mais bon, ça on en parlera dans la deuxième partie, puisque là c'est le moment de le...
Oui, parce que bon, après on pourrait dire pas mal de choses, j'ai appris, je croyais être trop court et je vais être trop long.
Eh oui.
Écoutez, je dirai ça après, sûrement l'air, si je peux.
Nous écoutions Frédéric de Patti Smith et vous écoutez Achaïra, l'émission de pollinisation libertaire sur la clé des ondes 90.1.
Débat d'actualité.
Le débat d'actualité.
Voilà, bien, nous reprenons cette deuxième partie en hommage à Maurice Rachfuse avec des témoignages un petit peu de... continue sur des témoignages sur Maurice. Et en particulier, Maurice Rachfuse est venu quelques fois sur Bordeaux. Et donc là, on a un petit hommage de Patrick Aguillard, qui était un des animateurs du comité antifasciste de Bordeaux, et qui est maintenant à Montréal, et qui donc a tenu à faire un petit mot que je vais vous lire sur son hommage, où il témoigne de ça. « Salut à toi, Maurice. » Avec un immense respect pour ta gentillesse et ta disponibilité, pour la multitude de tes engagements, pour ton implication dans le réseau antifasciste Ras le Front et les débats que tu viens animer pour nous à Bordeaux avec le collectif antifasciste. pour ton célèbre bulletin que fait la police, qui démarra après l'assassinat du jeune Macomé dans le commissariat des Grandes Carrières à Paris dans le 18e. Merci pour tous les livres que tu as écrits, qui sont des livres d'histoire, la tienne mais aussi la nôtre, pour ce travail patient qui a permis de montrer l'implication de la police française dans l'arrestation des personnes juives en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme ton ami Michel Slitinski de Bordeaux, lequel a mené une recherche historique similaire pour prouver l'implication de Papon, Maurice aussi. Tu étais un passeur de mémoire, une mémoire dont nous avons besoin pour connaître la vérité, ne pas oublier et pouvoir dire plus jamais ça. Maurice, tu m'as fait penser à ma grand-mère, qui elle aussi me racontait les petites histoires de la grande histoire. Le souvenir de ma grande-tante Marie, laquelle faisait partie d'un réseau de résistance qui se chargeait d'aider les prisonniers évadés d'Allemagne et qui racontait que le plus dur n'était pas de traverser les lignes allemandes, mais de les sortir de la gare de l'Est à Paris, où la police française, et oui encore elle, contrôlait avec un zèle imbécile et complice. Maurice, tu étais avec nous samedi dernier, c'est écrit le 15 juin, place de la République à Paris, avec le comité Adama et avec toutes les victimes des violences policières contre le racisme et les inégalités. Merci à toi, Maurice Rachfus. Tu es un homme de mémoire. Nous ne t'oublierons pas. Voilà donc ce très témoignage.
Très beau témoignage.
Et je crois, Sakina, aussi que il est intervenu. Donc, Sakina, tu es poursuivie deux fois pour des actions en soutien à la campagne BDS. On a déjà parlé, boycott des investissements de sanctions. Et Maurice Rachfus est venu par deux fois à Bordeaux, oui, à l'époque, pour te soutenir à la fois dans un meeting et en procès. Est-ce que tu
peux nous... Et d'ailleurs, dire simplement que Maurice Rachfus était un véritable bonheur de rencontre. Et c'est peut-être grâce à Patrick Aguillard qui lui demandera de venir me soutenir. Parce qu'en 2005, la campagne BDS n'existait pas, ça je le rappelle. Elle n'existait pas, mais on mettait des autocollants, boycott des produits de l'occupation, dans toutes les grandes surfaces où il y avait des avocats, etc. Là, je me fais arrêter. Je me fais arrêter et je suis avec un camarade qui s'appelle Philippe Destando. Le soir, des flics arrivent, garde à vue. Donc je me retrouve pendant plus de 24 heures en garde à vue. Et une perquisition le lendemain, on me sortira de ma cellule pour perquisitionner mon appartement, notre appartement avec mon amoureux. Et là, on me demande, il rentre dans la maison, mais enfin, on va pas parler de la perquisition dans le sens où ça s'est fait sur la psychologie, en me disant si t'as rien s'il y a rien chez toi de répréhensible, eh ben tu pourras sortir. Et donc, on me faisait croire que j'allais en prendre pour une dizaine d'années parce que un bouquin venait de sortir qui disait qu'il était antisémite. L'époque, l'antisionisme, à travers un bouquin que avait fait, un livre blanc qu'avait fait un ambassadeur, l'ambassadeur du Sénégal, qui était un.
Jean-Christophe Ruffin.
Jean-Christophe Ruffin avait eu une commande de l'Élysée pour faire un bouquin, là-dessus, un travail là-dessus. Et donc, moi, je venais juste de me faire arrêter alors qu'il y avait eu ce livre blanc. Et je me souviendrai tout le temps de ces flics qui viennent à la maison et qui me demandent de Mein Kampf. Or, je ne connaissais pas Mein Kampf, mais ils cherchaient à tout prix, ils ont jeté tous les bouquins, ils n'ont pas trouvé Mein Kampf, mais ils ont trouvé le bouquin de Maurice Rachfus, Police hors la loi. Et là, je vous assure que, ouf, ça a été très très dur, parce qu'ils l'ont pris, ils l'ont piétiné, des crachats sur ce bouquin. Et c'était pire que, en fait, s'ils avaient trouvé Mein Kampf, ils n'ont pas trouvé, mais ils ont trouvé pire pour eux, c'était le bouquin de Maurice Rachfus, la Police hors la loi. Et c'est vrai que lors d'un débat, je raconterai cette histoire et c'est Maurice Rachfus qui me disait « Mais petite, il ne faut pas avoir ce genre de bouquin chez toi. » Enfin vraiment, c'est parler de Maurice Rachfus, c'est aussi un peu avec la chair de poule. Et une deuxième fois, il reviendra avec une députée européenne pour me soutenir. toujours à cause de ces autocollants, parce qu'en 2010, je me refais arrêter avec toujours cette campagne d'autocollants que je mets dans tous les produits venant de l'occupation. Et il décide, il vient et il est témoin à mon procès avec une députée européenne écologiste. Et je me souviendrai tout le temps, effectivement, il vient avec son étoile jaune, je vois ce petit vieux dire tout le respect qu'il porte à la cause palestinienne, dire de moi que je ne suis pas antisémite, mais bon, je pense que même les juges le savaient, puisque c'était une commande de Michel Héliot-Marie qui appelait à une campagne de sanctions, c'était le premier procès, et donc je verrai Maurice Rafius venir avec son étoile jaune, et là c'est l'horreur, c'est vraiment l'horreur, parce que je vois l'avocat de France Israël qui le regarde avec mépris, en lui disant « Mais de quel côté vous étiez ?» Et là, on peut plus rien dire, quoi, on peut plus. Et enfin, ça a été vraiment atroce à ce niveau-là. Enfin, quelqu'un de cette envergure, quelqu'un de cette pointure, quelqu'un comme Maurice Rafius, se faire insulter, mépriser, par sans que les juges ne disent rien, à part mes avocats qui sont quand même un peu qui sont en colère. Mais on osera lui dire de quel côté vous étiez. Et voilà, ben Philippe, si tu veux reprendre un peu, parce que c'est vrai que moi, là,
Voilà, non, mais ça marque simplement la haine que portaient les sionistes pour Maurice Rafius. C'est l'avocat Markovic de la Chambre de commerce France-Israël, exactement, qui était quelqu'un de jeune, mais qui ose dire à quelqu'un qui monte son étoile juive de quel côté vous étiez sous l'occupation. Voilà, bon, c'est pas. Ça en dit long sur le. Le mépris et le. Voilà. Bon.
Peut-être mais aussi bon. Dire que. C'est vrai que ce procès a été perdu, mais très peu de gens m'ont appelé. Maurice Rafius fait partie des gens qui m'auront appelé pour me dire tu as été condamné, mais tu peux être fier du combat que tu mènes. Et ça, je garderai toujours cette phrase-là en mémoire avec mon avocat et peut-être une autre militante, Olivia Zemmour. Mais ce coup de fil de Maurice Rafius qui m'appellera pour me dire tu as perdu parce que c'est un procès politique, mais en tout cas, ce procès marquera et moi, je tenais à te féliciter. Et à te dire continue et on continuera ensemble. Voilà ce que je pouvais dire de ce grand personnage qui était Maurice Rafius et que j'ai eu un bonheur de rencontrer. Enfin, vraiment, c'est. Voilà pour le témoignage.
Bon, mais on peut refaire un revenir un petit peu sur la dernière phase de la période, une période où Maurice Rafius a contribué au monde libertaire un petit peu. Et évoquer quelques-uns de ces articles en quelques minutes. Tu avais commencé, Thierry, tout à l'heure, on peut revenir sur...
Je jetais toujours un œil sur cet article pour, si par hasard il y avait des trucs qui pouvaient être mal interprétés, alors il m'écoutait toujours, et une fois... bêtement, je lui dis quelques mots en yiddish. Enfin, parce que je parle allemand, et ceux qui ne connaissent pas croient que c'est du yiddish, parce que j'ai habité dans le sud. Alors, il me regarde, et je dis ça comme ça pour histoire de. J'ai attendu qu'on soit tous les deux. J'ai dit, excuse-moi, Maurice, mais. Il m'a dit, parce que tu comprends le yiddish, parce que tout le monde disait. Il m'a dit non. Alors il m'a dit, tu le sais, quand mes parents ont été enlevés, j'avais 14 ans. Et comme dans toutes les familles juives, yiddish, Ashkenaz, les parents parlaient entre eux yiddish, mais parlaient français aux enfants. Ce qui fait que je ne connais pas le yiddish. Ce que tu me dis, alors je lui ai expliqué. Il m'a dit, et à ma grande honte, je te le dis à toi. Une fois, j'avais été invité en Israël, j'y suis allé, et je croyais connaître quelques mots de yiddish, et je me suis rendu compte que c'était des mots d'hébreu. Alors c'est moi qui lui ai fait un cours ce que j'avais appris par des copains polonais que au Moyen-Âge, les juifs très orthodoxes mettaient dans le yiddish, qui était une langue parlée, qui n'était pas écrite, ça c'est encore un autre problème, des mots de la langue sacrée pour influer. Et il m'a dit oui, et tout le monde me demande, mais, alors je dis, mais heureusement, on était en... il y a quand même pas très longtemps, et je disais, heureusement que ce n'est plus une langue vivante. Comme ça, on ne peut pas te mettre... Il m'a dit oui, mais tu ne le dis pas. Alors, je l'ai dit, mais bon. Parce que c'était... Et en plus, devant tout le monde, il croyait faire un jeu de mots, et c'était de l'hébreu. Dans le sens premier des
termes. Ah oui, voilà, mais c'est assez paradoxal, puisque bon, à la fois le parcours que tu as décrit, c'est quelqu'un qui n'a pas reçu d'éducation juive, puisqu'il dit qu'il ne...
Non, parce que, oui, justement.
Et donc, il a fait...
Son père, paraît-il... était, on dirait, vaguement de gauche, alors que sa mère, ses grands-parents étaient au Bund.
Oui, donc,
le Bund, je rappelle, c'était une organisation où il n'y avait que des travailleurs.
Internationaliste, oui.
Et qui était mal vu de tout le monde, des sionistes, des communistes et des nazis après, parce qu'ils ont écrit dès les années 20 et même un peu avant... On n'ira jamais en Palestine, car il y a des gens qui y habitent. Et nous, on est très bien en Pologne, en Lituanie et tout ça. Mais c'est...
Voilà, c'est... et donc le...
Oui, alors.
Et le 24 décembre 2005, comme ça, il fait effectivement un article anticléricalement vôtre. Voilà, donc dans Le Monde Libertaire. Comme ça, j'ai retrouvé quelques articles. Donc il y avait celui-ci qu'on trouve encore sur le site du Monde Libertaire. Il y en a d'autres qu'on ne trouve pas encore. Et donc il y a celui dont... Enfin, je ne sais pas si c'est... Un dont j'ai parlé tout à l'heure, donc c'était un article, ils vont voter, et ça c'était un article en rapport avec le... comment s'appelle le référendum sur l'Europe. Donc faisait toute une critique de l'Europe, de ce que le... pardon. Une critique un petit peu de l'Europe et de tous les courants. Là, il parle des veaux socialistes, des veaux UMP, des veaux verts au diable et des veaux syndicalistes, de la CFDT à la CFD, qui vont se jeter à l'eau pour ne pas se mouiller. Et toujours, voilà. Donc il concluait son article. Avec le traité constitutionnel qu'on veut nous vendre, il n'y aura pas de billet de retour avant longtemps, d'où la tentative raisonnable de voter non, faute de pouvoir voter merde. Toujours est-il que si nous veillons à ce que la petite flamme ne s'éteigne jamais, peut-être pourrons-nous continuer à rêver de ce grand soir qui rendrait caduque tous les référendums. Voilà, ça c'était le 26 mai 2005. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme... article de Maurice, on avait donc on a parlé donc effectivement de commémore.
On commémore puis on oublie.
Puis on oublie, voilà, donc ça c'est sur.
Parce que, excuse-moi Philippe, il écrivait toutes les semaines à maman, toutes les semaines il écrivait. Alors il y a des mamans, c'était court, à maman c'était une page entière.
La donne. Dans le... Quand j'ai feuilleté, là, moi, début 2005, c'était un par mois. Mais bon, c'était l'hebdomadaire, j'ai trouvé un sur quatre. Mais bon, après, j'ai peut-être pas tout... Ou je les ai ratés. Et le dernier... Enfin, pas le dernier que j'ai trouvé, c'était « Saboter pour survivre ». Donc, c'était sur les questions sociales, sur le travail rend malade, il y a plus grave encore, le travail peut tuer. Et donc, effectivement, il invitait... la question sociale, le droit à la paresse, les questions sociales. Donc voilà, il s'intéressait aussi à tout cela, à toutes ces questions aussi des luttes sociales et de la classe ouvrière. Donc ça, c'était en mars 2005.
Excuse-moi, je me souviens même qu'on s'était engueulé avec lui parce que Laurent, le camarade qui s'occupait de la boutique,
Laurent Fouillard,
il dit, il n'ose pas trop me le dire, Maurice, mais il y a des trucs qu'il n'a jamais lus du mouvement anarchiste. Il faudrait quand même essayer, sans lui imposer, dire « tu as lu ça ?» Et il est tombé sur des trucs. Et je disais à Laurent, tu lui prêtes ou tu lui donnes. Il ne paye rien. Et il s'était rendu. Laurent lui avait dit, c'est Thierry qui m'a dit que tu ne devais rien payer. Arrêtez de me voir. Je peux payer. Maurice, calme-toi. Je dis non, écoute, Maurice, tu nous aides plus que tu ne crois. Tu n'as pas. C'est notre solidarité. Hein.
Bon, mais écoute, on va écouter Casse-tête et puis on reviendra dessus. Après.
Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. Qu'est-ce que j'étais déjà ? Travailleur, immigré, philosophe, résistant caché, dissident notoire, ou bien animal à fourrure. Je m'appelais comment déjà ? José Abdel Argentino, Arabica Yann Patochka, ou bien alors bébé phoque. Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. M'a-t-on assommé pour mes idées, ou pour faire de moi un manteau, pour de l'argent ou la couleur de ma peau? J'ai un bout d'os dans la mémoire. Quand leurs pieds chaussés m'ont cerné, étais-je allongé dans des draps, ou bien couché sur la banquise, ou est-ce que je sortais d'un café? Je suis mort dans la rue de l'Ouest, sur la glace du Nord, ou chez les flics de l'Est, ou dans la pampa des casquettes, à coups de trique noir. Est-ce que je rêve de vengeance, de tête policière éclatée, de tête de chasseur sanglante, de tête de raciste empurée, ou bien est-ce que je vois des têtes émerveillées d'elles-mêmes, émerveillées de leurs dedans et se découvrant nouveau monde? Je suis mort, répondez pour moi. Je m'appelais Yann Patochka argentin et bébé phoque arabe. Maintenant, ça me revient.
Voilà, nous venons d'écouter Casse-tête. Donc Casse-tête, c'est un article, un poème écrit par GB dans Charlie Hebdo. Et Yves Montand a contacté GB en lui demandant de pouvoir le mettre en musique. Et donc, GB a été étonné, mais voilà, on a ce morceau. Et Maurice Rasmussen l'a remis en exergue de l'ouvrage dont on va parler juste après, qui s'appelle « La police sur la loi ». Donc, vous écoutez Achaïra, l'émission de pollinisation libertaire sur la clé des ondes 90.1 MHz.
Débat d'actualité.
Le débat d'actualité.
Voilà, et donc, Christiane Passevant a fait une présentation de résumé de cet ouvrage qu'on va vous lire, que Esmeralda et Fabienne vont vous lire.
Voilà, donc il s'agit bien du livre La police hors la loi, des milliers de bavures sans ordonnance depuis 1968, et c'était édité au Cherche-Midi, le Cherche-Midi éditeur en 96. Voilà ce que dit Christiane Passevant. Après la police de Vichy, les forces de l'ordre françaises au service de la Gestapo et Drancy, un camp de concentration très ordinaire, Maurice Rasmussen enquête sur les bavures policières depuis 1968. La police hors la loi constitue un travail remarquable, une masse de faits empiriques qui donne à réfléchir sur l'état de droit dont il est si souvent question ces temps derniers. Toujours d'actualité, n'est-ce pas ? L'idéologie sécuritaire gagne du terrain sous couvert de menaces terroristes. La discrimination anti-étrangers, anti-jeunes et anti-immigrés se banalise face à la multiplication des atteintes aux droits des citoyens et citoyennes. Cet ouvrage est un document courageux et implacable contre la haine et les dérives fascisantes d'une institution de l'État.
La police, un État dans l'État ? À la lecture des faits rapportés, la question se pose et inquiète. Si l'on songe aux 250 000 policiers armés et nantis de pouvoirs exorbitants et arbitraires, 130 000 dans la police nationale, sans compter la gendarmerie et la douane. Une sorte de contre-société avec un esprit de corps et une vision personnelle de l'application des droits et des lois. De là à craindre une dérive totalitaire quand les policiers dépassent leurs fonctions, jouent les justiciers ou adoptent les thèses de l'extrême droite, il n'y a pas loin. L'auteur nous rappelle que Louis Jox a permis aux salariés de la police l'achat de l'arme de service. Il est courant de voir celle-ci utilisée, y compris dans la vie civile. Certains policiers possèdent de véritables arsenaux. Et, outre le symbole de puissance donné par l'arme, le manque de formation des policiers de base les amène à outrepasser les droits de la fonction. Rares sont les victimes qui osent d'ailleurs se plaindre des insultes, des tutoiements, des contrôles aux faciès, des harcèlements sexuels ou des bousculades, bavures ordinaires et quotidiennes.
Les événements de mai 68 ont permis d'instaurer des mœurs policières dont notre société ne s'est jamais débarrassée depuis, même sous les gouvernements socialistes. Depuis 1968, en effet, les policiers et les gardes mobiles lâchés contre les manifestants se surpassent. Quelle différence peut-il y avoir entre un policier participant à une charge lors d'une manifestation ouvrière et son collègue qui, quelques années plus tard, se livre à la chasse aux Juifs, dénonçait déjà Maurice Rachfus dans La police de Vichy. Le pouvoir peut changer, mais, citation, la logique policière échappe aux considérations politiciennes, dès lors que la mission de maintien de l'ordre est suffisamment cohérente pour rester répressive. Peu importe le système qui donne les ordres, si la matraque est au bout de l'ordre reçu. Et le ministre de l'Intérieur de justifier la nécessité de construire une police nationale apte à affronter les turbulences du 21e siècle.
Nous y sommes. Des turbulences que le 23 août 1996, personne n'est prêt d'oublier. Quand les forces de l'ordre ont attaqué les grévistes de la faim et leurs familles dans l'église Saint-Bernard à Paris. Coup de hache pour fracasser la porte et frayeur des enfants réveillés en sursaut pour le respect des lois. Une intervention humanitaire, comme la qualifia alors le ministre de l'Intérieur Jean-Louis Debré. L'un de ses prédécesseurs, Michel Poniatowski, reconnaissait en 1976, devant l'Assemblée nationale, l'an dernier, 3241 sanctions ont été prises et 136 révocations prononcées. Une déclaration en forme d'aveu de l'existence de nombreuses violences policières. Les rafles, grenades lacrymogènes lancées dans les bars ou grenades à grenailles utilisées contre les manifestants dénoncent la répression au nom de l'ordre par une police protégée par le pouvoir et illustrent l'analyse de Maurice Rachfus. La raison d'État justifie la tradition répressive de la police républicaine.
L'idéologie de la police et son comportement quotidien, le pouvoir des policiers et leur lien avec le Front National, tout est passé au crible à travers l'analyse des coupures de journaux relatant les violences policières, les abus perpétrés par les gardiens de la paix et les parodies de justice. De faits divers sanglants en bavure, de dérapages en harcèlement, de délits en meurtre, la litanie de malversations, des violences gratuites ou non défile au cours des pages. Toute collectivité humaine a son pourcentage de brutaux, de racistes et de sadiques, nous dit Rachfus. Le problème n'est pas tant de condamner que de prévenir, et si la prévention a échoué, de punir. La première réaction de celui qui lit le récit de ces faits détestables est de s'étonner que ces fonctionnaires brutaux ou racistes n'aient pas été repérés plus tôt et écartés de toutes les fonctions les menant au contact du public. Maurice Rachfus dresse un bilan accablant de l'institution policière, un bilan pessimiste dont découle une réflexion sur les moyens citoyens de résistance.
Que fait la police ? Bulletin mensuel de l'observation des libertés publiques créé en avril 1994, un an après l'assassinat du jeune Makome Mbowol au commissariat des Grandes Carrières, dénonce les bavures policières, la banalisation de l'abus de pouvoir policier et offre l'occasion de témoigner, de remettre en question l'institution elle-même, de dénoncer les dérives totalitaires du pouvoir policier, ou de voir dans le métier de policier une fonction et non un corps social à part. La police hors la loi participe à un vaste débat sur la répression. La présence plus marquée de l'extrême droite dans la police souligne également l'urgence d'une interrogation sur les dérives d'une démocratie dont certains représentants de l'ordre, à la fois soutenus et méprisés par leur hiérarchie, se comportent au mieux comme des délinquants, au pire comme des criminels. Je rappelle, c'était donc un résumé, un article de Christine Passevant,
Christiane
Passevant, sur le livre de Maurice Rachfus, La police hors la loi, paru donc en 1996.
Voilà, et donc ce travail de compilation qu'avait fait Maurice Rachfus depuis 1968, il l'a continué à lui et d'autres. Dans le bulletin que fait la police. Donc l'Observatoire des libertés publiques est créé le 6 avril 1994, donc effectivement un an, le jour anniversaire, avec ce sous-titre « Quand la police entre en socialisme, il n'y a rien de changé sous le soleil noir de l'idéologie sécuritaire ». Rappelez la période où nous étions. Donc il est créé, le premier article est un manifeste. Il n'est pas possible d'assister sans réagir à cette délégation de pouvoir exorbitante. Donc chaque policier dispose désormais. Et donc, que fait la police ? Se donne pour tâche initiale de recenser toutes les informations concernant les grandes et les petites exactions des policiers qui ont de plus en plus tendance à se considérer comme des justiciers. Tous les faits signalés par la presse de province, les témoignages visuels qui ne sont pas relatés par la presse écrite ou audiovisuelle et qui ne seront communiqués permettront de dresser un état des lieux permanent. Document indispensable si l'on ne veut pas que les acquis de notre société démocratique soient rapidement annihilés. Notre silence face à une mise en condition préparée depuis la constitution du gouvernement Balladur-Pasqua ferait de nous tous les complices de cet état policier. Voilà, ça c'était le premier article du 6 avril 1994. Et en juin-juillet 1994, l'article c'était une incitation, devenez tous observateurs. Voilà, c'était avec un dessin de ciné où on montre quelqu'un qui distribue le bulletin que fait la police face à un policier avec une matraque pour le mettre. Et si on résume après tout ce travail, comme il est dit, c'était une compilation des petits articles, tel jour, à tel endroit, dans tel commissariat, tel article de presse ou tel témoignage. Et donc il listait hebdomadairement ou mensuellement ces listes de violences policières. Et donc c'était souvent 4-5 pages, enfin c'était assez long. Et donc sur ces 1994-2014... Donc sur 10 années, une somme énorme de témoignages et de faits que l'on ne peut plus appeler des bavures quand on est devant des situations aussi massives. Et bien sûr, donc le...
Sur 20 ans, 94.
2014, 20 ans, j'ai dit 10
oui,
ans.
Oui, bon, 20 ans.
20 ans, voilà. Donc ce bulletin a effectivement un petit peu changé de forme. Il y a eu, autour des années 2004-2005, le rythme a un petit peu changé. Son sous-titre, qui était bulletin intérieur de l'Observatoire des libertés publiques, a changé. Et c'était devenu bulletin anti-autoritaire, bulletin d'information anti-autoritaire à partir de juillet 2006. Et un peu plus tard, c'était devenu chronique anti-autoritaire de Maurice Rachfus. Et donc, il dit qu'il fallait bien qu'il termine l'aventure que fait la police en 2014, avec suite à l'assassinat de Makome Mbowole, qui avait 17 ans. Et donc, 88 numéros ont été... 122 numéros imprimés. Et donc, il se posait la question, aurons-nous des successeurs ? Bon, on peut, d'une certaine façon, le rassurer, puisque avec les violences des mobilisations sociales des dernières années, un certain nombre d'observatoires départementaux des libertés publiques, que ce soit Toulouse, Montpellier, Paris, Bordeaux, on continuait ce travail. Alors, pour l'instant, ce sont des compilations un peu internes avec des bulletins. Il n'y a pas ce travail peut-être aussi public qui est fait, mais en tout cas, il y a la matière. Et voilà. Et donc, sûrement, ça prendra d'autres formes de témoignages.
Mm-hmm. Mais on peut dire que le flambeau a été repris.
Oui. Mm. Non, voilà, et on peut dire que s'il y a un au-delà, on peut dire, envoyer un message à Maurice, t'inquiète pas, tes archives sont pas à la benne, elles sont entre de bonnes mains, et on continue. Voilà.
Voilà, et tu disais, il y avait aussi une suite possible avec tous les enregistrements des téléphones portables, des gens qui cumulent, c'est un certain nombre de...
Tu disais qu'il y avait un livre en préparation.
Oui, avec... quelqu'un que Philippe Sambre connaît, David
Dufresne.
Et le livre était déjà en élaboration. Donc,
on peut penser que donc ce livre devrait sortir alors.
Avec l'aide de nos camarades de Libertalia. Mmh.
D'accord.
Bon, mais on va conclure en musique. Voilà, et bien donc c'était la sélection d'Alain à la technique, c'était les Doors, Roadhouse Blues. Vous écoutiez Achaïra, l'émission de pollinisation libertaire sur la clé des ondes 90.1 MHz. Voilà, eh bien l'émission touche à sa fin. C'était la deuxième et dernière partie de la 222e d'Achaïra. Nous remercions Alain à la technique. Au revoir. Esmeralda.
Bonsoir.
Fabienne.
Bonsoir.
Thierry.
Bonsoir.
Progrès.
Bonsoir.
Sakina.
Bonsoir.
Et Philo, bonsoir. Donc pour leur contribution à cette heure. Nous vous disons à bientôt dans les mobilisations. La vraie vie, quoi. Nous pouvez retrouver l'émission en podcast sur laclédesondes.fr dans la rubrique Nos émissions ou sur les podcasts, ainsi que sur le site du Cercle, cerclelibertairejbetan3.wordpress.com. En plus, le programme y sera détaillé et vous aurez les liens sur les chroniques écrites. La prochaine d'Achaïra, ce sera le lundi 7 septembre 2020 à 20h, toujours sur la clé des ondes 90.10, et ce sera la 223e. Et on espère bien que vous serez à notre écoute une nouvelle fois. Alors d'ici là, portez vos luttes avec conviction et détermination.
Contribution.